Ça me paraît être une bonne expression. Doit rester au-delà, c'est-à-dire doit s'efforcer d'entendre un discours qui n'est pas nécessairement prononcé.
Pourquoi avez-vous intitulé votre livre « Le temps d'une analyse » ?
Eh bien, parce que justement, le temps m'a paru être un facteur important dans mes préoccupations. C'est un titre qui peut-être est légèrement ambigu, je dirais. Enfin, on peut le comprendre d'une manière ou d'une autre. Comme du reste, toute l'expérience psychanalytique doit toujours être comprise sous différents angles. Et si j'ai intitulé ça, ce livre, c'est pas que je l'ai intitulé, si je me suis référé au temps dans ce livre, si j'ai approfondi le problème du temps, c'est probablement à l'origine lointaine, à cause de deux expériences temporelles qui m'avaient frappé, l'une dont je parle dans le livre, qui est l'expérience d'Anna O, et l'autre, qui est une expérience que j'ai vécue avec Lacan, où j'avais l'impression que le temps aussi jouait son importance.
Mais le temps joue toujours une importance dans une analyse.
Oui, oui, une importance fondamentale et très difficile à saisir.
Pourquoi difficile à saisir ?
Eh bien, par exemple, l'histoire d'Anao est finalement très simple. Je ne sais pas si je peux peut-être la rappeler en deux mots. Anao était une cliente d'un médecin qui était le maître de Freud, Breuer, et qui avait commencé par faire une sorte de traitement qu'il appelait, un traitement par la parole, où il écoutait simplement ses patients, ce qui était tout à fait inédit. Et Anao était une jeune fille qui, à un moment, a été incapable de boire de l'eau. Voilà le symptôme, elle ne pouvait plus boire. Et pendant de nombreuses semaines, en plein été, elle était incapable d'avaler un liquide, ce qui était absolument dramatique. Eh bien, tous les jours, Breuer venait parler avec elle, venait essayer de découvrir pourquoi elle ne buvait pas. Et puis, au bout de 6 semaines, soudain, cette jeune fille s'est rappelée d'un événement. Et l'événement était le suivant. Sa gouvernante, qui avait un petit chien, avait donné à boire de l'eau à ce petit chien dans sa tasse du petit déjeuner. Or, Anao détestait la gouvernante et le petit chien tout autant, en a été tellement dégoûtée que, dit-elle, elle a cessé de boire. Et alors, quand elle s'est souvenue de ce souvenir, elle a pris une tasse que Breuer lui tendait et elle a bu de l'eau. Ceci après 6 semaines. Et comme c'est décrit dans le livre, ça paraît tellement convaincant que je me suis dit, ben oui, il suffit de chercher et de se rappeler du souvenir. Et puis, à ce moment-là, ce symptôme disparaît. C'est quand même tout à fait étonnant. Et puis, à la réflexion, ça m'a paru complètement invraisemblable. Cette histoire était sens dessus-dessous, parce que si Anao était tellement dégoûtée, il semblerait que du fait qu'elle ait oublié cet événement, elle aurait pu boire. Et qu'au moment où elle s'en souvienne, elle aurait dû cesser de boire. Parce qu'à ce moment-là, elle aurait été dégoûtée. Or, il se passe exactement le contraire. C'est tant qu'elle l'a oublié qu'elle n'arrive pas à boire. Et quand elle se souvient de l'événement dégoûtant qui l'a dégoûtée, qu'elle peut boire. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que quand elle boit, elle fait exactement ce qu'a fait le petit chien avec la gouvernante. Elle boit dans les bras de Breuer. Et alors, c'est à partir de ces réflexions que je me suis posé la question du temps et que je me suis dit, pourquoi faut-il 6 semaines ? Pourquoi faut-il souffrir 6 semaines ? Pourquoi n'a-t-on pas besoin, ou n'est-il pas beaucoup plus économique, on pourrait dire, de se souvenir de l'événement tout de suite et pas souffrir si longtemps ? Alors là, je n'irai pas plus loin, puisque c'est tout mon livre qui va plus loin, et je pense que cette expérience-là m'avait, justement, c'est un récit écrit, m'avait beaucoup frappé et m'avait fait me poser toutes sortes de questions concernant la valeur du temps et ce que peuvent représenter ces 6 semaines, ce que je découvre au fil du livre. Thank you.
Pourquoi le plus souvent une psychanalyse réussit-elle ou échoue-t-elle, Olivier Flournoy ?
Le plus souvent, je ne sais pas si une psychanalyse échoue vraiment. C'est peut-être quelque chose de prétentieux. Mais je pense que une psychanalyse qui échoue, c'est une psychanalyse qui échoue pour des raisons de mésentente entre les deux personnes en cause. Et je crois que si cette mésentente n'est pas insurmontable, mais qu'elle existe, que l'analysé peut à ce moment-là éventuellement changer d'analyste et reprendre une psychanalyse pour réussir à dépasser cette mésentente et par conséquent à atteindre le résultat qu'il souhaite. Je crois que les échecs sont de cet ordre-là. Dans l'ensemble, comme je le dis également dans mon livre, il est difficile de dire pour le psychanalyste si une psychanalyse réussit. Parce que, à mon avis, on ne peut le savoir qu'après.
Longtemps après ?
Ou tout au moins, non, pas nécessairement longtemps après. Ou tout au moins après, dans la mesure où d'autres gens le sauront, mais que ça n'est peut-être pas au psychanalyste de le savoir.
C'est par la douleur causée que la psychanalyse guérit Et c'est en cela qu'elle est initiatique, a écrit Geneviève Génari, qui est écrivain, qui n'est pas psychanalyste, et qui a vécu une longue psychanalyse. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec elle?
C'est par la douleur causée que la psychanalyse guérit.
Oui, et c'est en cela qu'elle est initiatique.
C'est une phrase qui est très belle, mais je ne sais pas, elle ne me parle pas précisément. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une douleur causée. Je crois qu'il pourrait y avoir des douleurs vécues et revécues, mais causées. Me laisse un peu perplexe. Maintenant, l'aspect d'initiation, je ne sais pas non plus s'il y a un aspect d'initiation qui me rappelle effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure d'esprit de chapelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait nécessairement une initiation. Je pense que on peut se référer par exemple à l'inconscient, qui est une notion tellement difficile à saisir et à accepter, mais qu'on peut comprendre en se disant par exemple que à la suite d'une des découvertes de Freud fondamentales, c'est-à-dire celle de la sexualité infantile, que les enfants vivent sous l'emprise de leurs émotions, dues à ce que Freud a appelé la sexualité infantile dans un sens très large, le fait qu'il y a des enfants garçons et des enfants filles qui sont en contact avec des parents de sexe différent, vivent des émotions importantes qui, en quelque sorte, structurent leurs réactions, qui vont être des réactions dont ils ne seront plus conscients et qui vont surgir à certains moments et modifier le cours de leur existence sans qu'ils le sachent. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'on peut effectivement penser que l'initiation serait la redécouverte de quelque chose qu'on vit, qui se réactualise dans l'existence, et une nouvelle compréhension de ce qu'on vit, et par conséquent un élargissement des possibilités du sujet et un dépassement, par exemple, de la douleur dont vous parlez.
Mais à quel moment l'analyste doit-il interpréter, Olivier Flournois? Doit-il interpréter ce que lui a dit l'analysé?
Je pense que c'est une question beaucoup trop, à la fois beaucoup trop technique et beaucoup trop, peut-être trop générale pour pouvoir y répondre.
Mais le moment de l'interprétation est-il très important?
Absolument. Mais c'est un moment qui se vit. La psychanalyse est une expérience tout à fait privée, tout à fait intime. Et je dirais à chaque psychanalyse son moment. Et là, je crois que c'est à la fois l'expérience du psychanalyste, ses connaissances théoriques, son expérience pratique, et sa prise dans la situation intersubjective, autrement dit son expérience émotionnelle elle-même, qui va dicter à l'analyste le moment qu'il juge le meilleur pour parler.
Il ne faut interpréter ni trop tôt ni trop tard.
Il ne faut interpréter ni trop tôt ni trop tard, absolument. Ah, je vois que vous référez aussi à quelque chose que j'ai dit dans mon livre, puisque c'est justement si difficile de savoir le bon moment pour interpréter. Et je ne sais pas si j'y ai répondu, mais en tout cas, c'est une question aussi qui concerne le temps et qui est une question qui fait partie de mes préoccupations et dont j'ai parlé dans mon livre, bien entendu, sans donner de réponse, parce qu'une réponse serait une recette, finalement.
Et il n'y a pas de recette ?
Et il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette.
Il y a des amorces de recettes. Tout de même.
Il y a des amorces de recettes, il y a périodiquement des analystes qui écrivent des livres de technique, qui périodiquement éveillent de grands espoirs chez des analystes qui ont des difficultés et qui sont en proie au besoin de trouver quelqu'un qui leur les sorte de la peine et de l'embarras et du souci qu'ils se font dans leur pratique. Mais ces livres de technique généralement perdent très vite de leur intérêt une fois qu'on les a lus. On comprend qu'il s'agit de la technique de celui qui les a écrits, et il s'agit de trouver son, sa façon personnelle d'agir pour pouvoir éprouver une certaine, un certain confort dans, le, dans l'activité analytique.
Y a-t-il certains dangers, certaines limites à une psychanalyse, Olivier Flournoy ?
Alors, à mon avis, mais c'est très personnel, je dirais non. Je pense que, maintenant c'est mon expérience, je ne pense pas que si on travaille avec une certaine sérénité, une certaine conscience professionnelle, on court de gros dangers. Je ne crois pas du tout qu'on court les mêmes dangers que, par exemple, le chirurgien courrait en coupant un vaisseau qu'il ne devrait pas couper ou quelque chose de cet ordre-là. Je pense que le danger est d'un autre ordre. Ce sont des dangers plus difficiles à saisir. Par exemple, celui de s'enliser dans une psychanalyse dont il est difficile de trouver une issue. Mais dire que l'expérience psychanalytique, comme on le dit parfois, pourrait nuire à quelqu'un, ne me paraît pas justifié.
On dit parfois qu'une psychanalyse peut faire perdre la foi. Êtes-vous d'accord ?
Sûrement, bien sûr. Bien sûr, dans la mesure où la mauvaise foi existe. Et où la foi, je crois que, comme à la suite de Freud, on l'a bien montré, est une foi qui peut être justifiée par exemple, ce qu'on appelle une sublimation, quelque chose. Alors là, ce n'est pas vraiment le domaine proprement psychanalytique, mais enfin, c'est un domaine de théorie psychanalytique, où la foi serait de l'ordre de la sublimation, c'est-à-dire d'une transformation de certaines émotions, d'un certain vécu, sous l'angle de la foi, et où un autre aspect, qui a effectivement été très... qui a eu une grosse influence dans la pensée contemporaine, dans la mesure où c'était un aspect subversif, où la foi serait bâtie sur une erreur, sur une mésentente, et où elle servirait, par exemple, des desseins inconscients de la personne qui dirait avoir la foi. Évidemment, ça saute aux yeux que l'Inquisition et la foi des gens qui vont décapiter et arracher les membres des infidèles est une foi qu'on peut estimer comme une d'origine discutable, dont où la personne croyante, en l'occurrence, emploie cette foi à pour justifier quelque chose d'un autre ordre.
Avez-vous connu des échecs parfois ?
Eh bien, les échecs, je dirais, ce sont les interruptions d'analyse. Je crois que là, il n'y a aucun doute qu'il arrive qu'on n'arrive pas à s'entendre à temps, à réussir à temps, par exemple, à comprendre et à interpréter une conduite d'échec chez quelqu'un qui vient nous voir. Et que devant ce retard ou cette difficulté de comprendre, la personne interrompt.
Et vous vous êtes senti responsable, parfois, justement, devant ces interruptions d'analyse, ces échecs ?
Écoutez, on se sent tout le temps responsable. On a tout le temps envie, fondamentalement, de réussir, que ça marche. Et bien sûr que... on ne peut pas dire si quelque chose... qui est tellement intime entre deux personnes échoue, dire ben, c'est de la faute de l'autre, ça ne tient pas debout. Bien sûr qu'on est responsable. Mais je dois dire que responsable ne veut pas dire coupable. Après tout, le psychanalyste n'est pas tout puissant, il peut se trouver devant des situations délicates, difficiles, Et s'il y a échec, c'est aussi au psychanalyste à admettre que l'échec existe et par conséquent à donner la possibilité à la personne qui a interrompu de recommencer ailleurs, si elle l'estime nécessaire, et de ne pas se décourager pour autant.
Pensez-vous que tout individu devrait, en fait, se faire analyser, Olivier Flournoy ?
Ah non, absolument pas. Non, non, pas du tout. Je pense que les individus qu'ils désirent peuvent le faire, mais je pense que déjà là, il faut quand même un minimum de conscience, de difficultés ou d'insatisfaction intérieure ou de problèmes à résoudre ou de quelque chose d'angoissant chez la personne, de peur ou de difficultés avec l'amour, avec la haine, de désir insatisfait, qui puisse quand même justifier une entreprise pareille.
Mais la psychanalyse peut-elle être un moyen de se réconcilier avec les autres, de se réconcilier avec le monde, disons ?
Oui, sûrement. Oui, oui, c'est même probablement quelque chose dont je parle aussi dans mon livre. C'est une façon de dire les choses. C'est-à-dire que si on réussit à s'entendre entre psychanalyste et psychanalysant, il s'agit non pas de s'entendre sur le dos du monde, mais de réussir à trouver un moyen terme qui puisse déboucher sur une sorte d'acceptation de soi et d'entente qui vise à la fois l'autre et le monde en général.
Vous sentez-vous pleinement en accord avec vous-même, Olivier Flournoy ? Vous sentez-vous parfaitement équilibré ?
Oh, écoutez, j'ai envie de vous renvoyer la question et de vous demander si vous vous sentez parfaitement équilibré.
Mais c'est moi l'intervieweur et vous l'interviewez, et je vous pose la question.
Eh bien, je pense que je me sens équilibré au même point que vous vous sentez équilibré quand vous travaillez. Oui, sûrement.
Mais il est important qu'un psychanalyste soit équilibré, j'imagine, et se sentant en accord avec lui-même.
Non, je suis perpétuellement en désaccord avec moi-même, ce qui me permet justement de ne pas avoir une seule idée et de pouvoir chercher et essayer de découvrir un sens et une idée à ce qu'on me propose comme problématique, dans la mesure où je n'ai pas une orientation précise et définitive.
Merci Olivier Flournoy. Je rappelle le titre de votre livre, « Le temps d'une psychanalyse ». À demain, 17h, avec Michel Vaucher. C'était En question avec la collaboration de Philippe Hamilton, Andréane Bussien et Madeleine Berthaud.
Si vous désirez vous procurer les enregistrements des émissions de Jacques Beaufort, vous pouvez vous adresser à l'Association pour l'École Instrument de Paix, 27 rue des Eaux Vives, 1207 Genève. Téléphone 022 35 24 22.